Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau pédalo sur Radio Campus Angers. On est ensemble pendant une demi-heure et pour cette dernière de la semaine, on va s'éloigner d'Angers pour aller faire un tour du côté de Bure avec un reportage réalisé par Violette Voldoir pour Radio Parleur qui revient sur les trois jours de l'étrange procès qui s'était tenu au début du mois à Bure, donc procès de sept manifestants qui s'opposent au projet d'enfouissement nucléaire. Et je vous propose que l'on commence sans plus tarder. Très bonne émission à toutes et à tous.
Et donc là, Vanessa Codaccioni regarde Florian, et elle se retourne vers le juge et elle lui dit « Mais monsieur le juge, c'est complètement délirant !»
Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
Et je pense que c'était finalement la meilleure analyse juridique de ce dossier qui a pu être proposée.
C'est un procès de paradoxe qui s'ouvre aujourd'hui à Bar-le-Duc, cette charmante petite commune de la Meuse. S'ouvrent aujourd'hui trois jours d'audience, les 1er, 2 et 3 juin. Et il y a presque plus de monde devant le tribunal que dedans. 7 personnes, 7 opposants et opposantes au projet Cigéo d'enfouissement de déchets nucléaires risquent pourtant gros jusqu'à 10 ans de prison pour association de malfaiteurs. Ils et elles sont soupçonnés de détention d'explosifs en bande organisée. Les faits sont graves et pourtant ceux qui accusent les prévenus semblent eux-mêmes se ficher un petit peu de ce procès. Certains n'ont même pas pris la peine de se déplacer aujourd'hui, quand d'autres suivent les débats d'une oreille un peu distraite.
Alors l'avocat de la commune de Bure, il faut savoir qu'il dort depuis le début du procès, mais que comme il est parti civil, régulièrement on lui demande s'il veut dire quelque chose. Donc il dit évidemment rien, jamais. À la fin des témoignages qui étaient... touchant, passionnant, bouleversant pour certains, c'était hyper émouvant le dernier, etc. Et bien il y a ce type qui a été invité à plaider et qui avait l'air extrêmement dérouté de devoir plaider alors que c'est, bon il est avocat quoi. Et il a demandé s'il pouvait pas plaider demain et le tribunal avait l'air de considérer que c'était quand même pas très important, du coup c'était bien si on pouvait l'expédier là à la fin de la journée. Du coup ils ont proposé une pause, il avait pas vraiment l'air de vouloir faire une pause non plus, il a dit bon bah je vais y aller. Enfin, vraiment, il y avait un truc hyper cocasse. Et donc, il a plaidé avec une mollesse assez olympique. Et suite à quoi, il a dit qu'il était là vraiment de manière symbolique, que sa prestation serait très brève pour ne pas occuper le temps de la justice. Et après, il a quand même demandé 50 000 euros de dommages et intérêts pour la commune de Bure.
L'affaire remonte à 2017 et pendant plus de 3 ans, les enquêteurs ont cherché à savoir qui avait organisé une manifestation, la manifestation du 15 août entre les villages de Bure et Saudron dans la Meuse. Il est prévu, en ce jour d'été, d'aller dans un champ concerné par les projets de l'ANDRA. L'ANDRA, c'est l'agence chargée de la gestion des déchets nucléaires en France. Sur ce terrain, il y a une spirale du Néolithique. C'est un site unique et important sur le plan archéologique. D'ailleurs, des archéologues doivent participer à cette journée de mobilisation en plein été. Le cortège doit partir de Bure pour aller vers Saudron, un parcours qui ne passe pas à côté des bâtiments de l'ANDRA. Pourtant, ce jour-là, la gendarmerie décide de bloquer la route et disperse les manifestantes et manifestants dans les champs. Et la manifestation tourne rapidement au chaos. Au total, 320 grenades lacrymogènes, 37 grenades GLI-F4, 21 cartouches de LBD, 5 grenades de désencerclement pleuvent sur les manifestantes et manifestants. Et du côté des gendarmes, ils reçoivent des pierres et des cocktails Molotov. Ce jour-là, un manifestant, Robin, perdra une partie de son pied, soufflé par une grenade.
On est un collectif d'avocats. On les défend, on est 8 avocats, les défendent tous ensemble.
Votre nom à l'antenne ?
Raphaël Kempf.
Le dossier est très épais. Pourquoi est-ce qu'il est si épais selon vous ?
Il est extrêmement épais parce que les gendarmes et les juges d'instruction se sont intéressés pendant des années à la vie privée et militante et politique des personnes que nous défendons. Et ils se sont intéressés à les moindres recoins de leur pensée, de leurs réflexions, de leurs actions politiques et de la manière dont ils s'organisaient pour lutter contre le projet Cigéo.
Qu'est-ce que que vous pensez des délits qui ont été finalement retenus dans l'ordonnance finale? Est-ce que ce sont des faits graves, modérément graves, peu graves finalement?
Alors, du point de vue de la loi, nos clients encourent une peine de 10 années d'emprisonnement, ce qui apparaît effectivement extrêmement lourd et grave du point de vue de la loi, mais effectivement les faits qui sont retenus in fine, ce sont des faits qui tournent autour de l'organisation d'une manifestation le 15 août. C'est essentiellement ça qu'on juge. C'est-à-dire que finalement on se retrouve avec un procès après 3 ans d'instruction pour juger une manifestation et voir ce qui s'est passé, non même pas au cours de cette manifestation, mais pour ce qui s'est passé en amont de cette manifestation.
Cette enquête a été ficelée un peu bizarrement, les avocats et avocates se relaient pour le dire. À l'origine, il est vrai que les enquêteurs devaient faire la lumière sur l'incendie d'un restaurant, probablement un acte de sabotage d'ailleurs, commis en juin 2017. Le magistrat instructeur Kevin Le Fur étend pourtant ses investigations à d'autres faits. D'abord à une manifestation qui a lieu bien avant, en février 2017, puis à une autre qui se déroule bien après, en août 2017 cette fois, la fameuse manifestation du 15 août. Même le procureur et les avocats et avocates de la défense ont parfois du mal à se retrouver dans ce dossier un peu touffu.
J'ai pas le droit de parler à la presse.
C'est vrai, vous n'avez pas le droit.
Non, il n'y a que mes avocats qui peuvent parler à la presse. Il y en a, là, je peux vous en dénoncer quelques-uns.
Ouais, bah, je les ai vus.
Alors, ici, là, là, regardez, là, là, hop, 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 faut les choper. Là, okay. Elle, c'en est une, là.
Bonjour, est-ce que je peux vous embêter?
Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas en salle d'audience alors que l'audience a repris?
Je ne suis pas en salle d'audience aujourd'hui parce qu'il fait beaucoup plus beau dehors que dedans. Et qu'on a cru comprendre que le tribunal ne voulait pas faire de politique alors, à l'intérieur. Ce qui nous semble en décalage total par rapport à l'instruction qui a été menée. On a mis en cause des personnes d'entrée de jeu pour des associations de malfaiteurs, ce qui nous permet d'être une qualification qui est clairement politique. On a voulu surveiller, mettre sur écoute, perquisitionner des dizaines, des centaines de personnes en France, ce qui démontre clairement la dimension politique de ce dossier. Le fait qu'on veuille ôter cette dimension-là dans la salle d'audience nous paraît choquant.
Alors, je suis Luc. Je travaille pour une radio associative, je suis venu observer le procès pour les collègues en Allemagne. On est à Freiburg et voilà, je suis beaucoup dans le coin. Il y a un projet agricole dans lequel je suis impliqué ici aussi. Et du coup, je fais voilà, agriculture et journalisme.
Et donc, tu étais dans la salle d'audience ce matin, premier jour de procès. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment toi tu l'as perçu et ressenti?
J'ai été surpris que cette matinée était plus intéressante. Enfin, je m'attendais vraiment à un truc très 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 lourd de procédures, de techniques, pas trop intéressant. Et en fait, avec les déclarations qui étaient quand même très offensives et aussi très émotionnelles, j'ai trouvé ça très chouette. Je pense que le moment que j'ai trouvé le plus rigolo, c'est quand, pour illustrer l'état nucléaire, une personne dans les inculpés a remarqué que la lumière était allumée pour rien alors qu'il faisait plein jour. Et du coup, en plus, le juge l'a fait faire. Ça a eu un succès, j'ai trouvé ça très drôle.
D'ailleurs, les prévenus ne vont pas répondre aux questions. Est-ce que toi, ça t'a surpris justement qu'il et elle ne veuillent pas justement répondre aux questions du tribunal et fassent bloc?
Ben, je pense qu'une personne là, qui a déjà passé plusieurs mois en préventive pour cette affaire, c'est l'argument très simple de dire ben, « du coup, je ne répondrai pas à vos questions parce que vous me punissez avant de me poser des questions ». En même temps, c'est une posture politique que je trouve intéressante. C'est plutôt une posture offensive et politiquement chouette. Et par contre, ça ne me surprend pas du tout que les gens ne veuillent pas se prononcer. Ils ont été sous écoute pendant 85 000 heures. Je crois que en fait, l'investigation est allée très loin dans leur vie privée. C'est aussi ce qui est ressorti dans les déclarations.
Ça a été très loin quand même dans l'analyse de leur vie.
Complètement. Ça a été, je pense que toute cette procédure, toute cette instruction et le contrôle judiciaire qui a accompagné cette instruction est déjà une grosse punition en soi. Là, il y a eu ce contrôle judiciaire où les gens ne pouvaient pas se rencontrer, pas quitter le pays, pas communiquer, pas se rendre à Bure. Et du coup, voilà, en fait, ils ont déjà subi une punition immense, alors que le dossier est quand même assez vide. Enfin, c'est 20 000 pages de blabliblou. Du coup, voilà, je pense que plutôt la matinée s'est bien passée. J'ai trouvé ça une chouette manière de démarrer ce procès. Et là, avec cette manif magnifique, c'est plutôt chouette. C'est...
Ouais, on est mieux là que dans le tribunal, en fait. Hein.
On a compté 800 personnes.
Je te crois sur parole. Merci.
Nous réaliserons l'idéal libertaire et la... lobby nucléaire.
Pendant ce temps, en salle d'audience du tribunal de Bar-le-Duc, le président, dépourvu de prévenus et d'avocats de la défense, décide de guerre lasse de suspendre l'audience jusqu'au lendemain matin. Salut, bonjour Lauriane Chaudès, toi tu es journaliste pour Reporter, au quotidien de l'écologie, et tu suis aussi ce procès des malfaiteurs de Bure. C'est le deuxième jour d'audience aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Lauriane ?
Alors nous allons écouter les témoins qui vont venir témoigner pour la défense, notamment la politiste et historienne Vanessa Codaccioni. On aura également un militant antinucléaire qui s'appelle Claude Kaiser. Puis un scientifique ingénieur qui a travaillé au CEA, qui s'appelle Bernard Laponche. Et enfin, le juge Kevin Le Fur, qui s'est occupé de l'affaire ces dernières années, qui a été aussi cité à la barre par la défense. Et enfin, la défense avait également demandé à appeler à comparaître Pierre-Marie Abadi, qui est le directeur général de l'ANDRA, mais il a dit qu'il ne viendrait pas. On va faire sans lui, comme avec beaucoup de parties civiles, vu que l'ANDRA n'est plus partie civile dans ce dossier. Eh bien, il n'y reste que l'avocat de la commune de Bure, parce que le conseil départemental de la Haute-Marne, qui était également partie civile, on n'a pas vu son avocat. On ne sait pas où il est. Monsieur, il faut venir aux audiences, c'est pas bien.
Surtout qu'il y a de la place aujourd'hui.
Il y a de la place aujourd'hui. Bon, là, ça n'a pas encore commencé. Et je pense que les militantes et les militantes soutiens des prévenus vont rappliquer en masse pour écouter les témoins, notamment Vanessa Codaccioni, qu'on adore.
Je suis Vanessa Codaccioni, je suis maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université Paris 8 et j'ai été citée comme témoin de la défense dans le cadre de ce procès. En fait, ce que je voulais montrer à travers l'exemple de procès que j'ai étudié, comme des procès contre des communistes pendant la guerre froide ou la guerre d'Indochine ou la guerre d'Algérie, il y a eu mai 68, il y a eu les années 70 avec des Mao, avec les Corses, les Bretons. Ce que je voulais montrer, c'est que de tout temps, on a arrêté des gens sans avoir de preuves, ou en tout cas des preuves infimes d'une possible appartenance à un groupe qui pourrait commettre un jour. Ce que je voulais montrer, c'était que c'était la présomption de culpabilité qui dominait dans de nombreux procès de militants. Et ça me tenait à cœur de le rappeler aujourd'hui. Que vraiment, et notamment dans le cadre des inculpations d'associations de malfaiteurs, qui est quelque chose de loin d'être anodin et qui a été appliqué à ce procès-là, que la plupart du temps, l'inculpation d'associations de malfaiteurs, c'est pour pallier le manque de preuves.
Vous avez rappelé aussi qu'il fut un temps où juger des militants et dans des procès politiques, en fait, c'était possible en France.
Bien sûr, pendant très longtemps, on a jugé des militantes et des militants comme des ennemis politiques dans le prétoire. Alors ça a particulièrement été le cas en France de 1963 à 1981, c'est-à-dire de la fin de la guerre d'Algérie au début du septennat de François Mitterrand, parce qu'il y avait un tribunal qui jugeait tous les militantes et les militants et les opposants. C'était la Cour de sûreté de l'État qui avait été créée par le général de Gaulle. Et dans ces procès-là, les juges, ils étaient aussi politiques. C'était des magistrats gaullistes, parfois de droite, d'extrême droite. Et pour eux, c'était différent que de juger un autre type de procès dans lequel il y avait de la criminalité ou de la délinquance de droit commun.
Et par quoi est-ce que ça a été supplanté, puisque les militantes et militants sont toujours dans les tribunaux ?
En fait, à partir de 81, on a considéré qu'il fallait plus d'exceptions. En France, et que c'était contraire à l'état de droit, ce qui est vrai. Mais du coup, il fallait traiter le militant comme le terroriste ou le bandit ou le voleur. Et donc, les militants se sont retrouvés devant deux types de tribunaux classiques. La cour d'assises dans le cas de crime, le tribunal correctionnel dans le cas de délit. Il n'y a plus de tribunaux pour les militants.
Vous avez eu l'expression d'une criminalisation dépolitisante.
Oui, c'est-à-dire criminaliser, punir et en même temps dépolitiser. C'est-à-dire faire en sorte que l'on nie que ce sont pour leurs idées, leurs appartenances politiques, les causes qu'ils défendent, que des individus sont réprimés. C'est ça la dépolitisation. C'est aussi de dire ce ne sont pas des militants, mais ce sont des criminels, des délinquants, des casseurs, des fous, des terroristes, des radicalisés. Mais c'est aussi, concrètement, leur appliquer, par exemple, des dispositifs antiterroristes comme à Bure, en fait.
Ça, c'est une question intéressante parce que ce n'est pas un dossier de terrorisme. Contrairement à l'affaire de Tarnac que vous avez citée également, qui est une affaire de terrorisme qui a été jugée, dans lequel d'ailleurs la procédure était pareillement très épaisse, mais dans laquelle il y avait finalement peu d'éléments à charge, in fine. En plus, il y a des PV qui ont été très douteux, de la parole des policiers qui a été remise en question pendant les audiences à l'époque de Tarnac. Aujourd'hui, ce n'est pas une affaire de terrorisme, mais est-ce que, pour vous, il y a une vraie différence entre ce qui est de l'ordre du correctionnel et du terrorisme, ou est-ce qu'on peut quand même les comparer, ces types d'affaires-là ?
En fait, c'est quasiment le même type d'affaires, sauf que dans le cas de Tarnac, au départ, je vous rappelle que la Tarnac, ils étaient inculpés, c'est très grave, d'association de malfaiteurs, et on avait rajouté « en lien avec une entreprise terroriste ». Comme ils n'ont jamais rien pu prouver, évidemment, que ce n'étaient pas des terroristes, ça s'est fini au tribunal correctionnel pour association de malfaiteurs tout court. Donc finalement, ça revient au même type d'affaire. Alors évidemment, l'affaire Tarnac était une affaire beaucoup plus grave, mais on a mobilisé aussi contre eux, les militants d'aujourd'hui, des dispositifs d'enquête tout à fait impressionnants et tout à fait faramineux qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps dans le prétoire.
Je vais compléter sur le témoignage très fort de Vanessa Codaccioni. Et des questions lui ont été posées. Il y en a une qui m'a beaucoup fait rire, qui a été posée par l'un de nos confrères. Et donc, Florian commence à revenir sur l'un des chefs d'accusation, qui est le fait d'être complice en vue de faire quelque chose et en bande organisée. Et donc, il lui demande, mais ça veut dire quoi, en vue de ? Elle dit, c'est un délit d'intention, c'est-à-dire qu'on punit l'intention de faire quelque chose. Donc déjà, c'est quand même bizarre. Et complice d'une intention, ça veut dire quoi ? Alors là... Et alors, complice d'une intention en bande organisée. Et donc là, Vanessa Codaccioni regarde Florian, et elle se retourne vers le juge, et elle lui dit, mais monsieur le juge, c'est complètement délirant. Et je pense que c'était finalement la meilleure analyse juridique de ce dossier qui a pu être proposée.
Nous, c'est l'association de malfaiteurs qui nous fait peur, puisque criminaliser une lutte comme ça a été le cas, si un tribunal vient donner raison en disant effectivement la lutte constitue, enfin, les opposants à une lutte constituent une association de malfaiteurs, c'est extrêmement inquiétant pour la suite, sachant qu'on s'oppose au nucléaire, donc à une question qui est extrêmement sensible en France, et que quand la police, la justice va donner des moyens colossaux pour pouvoir ficher, identifier les opposants à travers tout le monde, c'est extrêmement inquiétant.
Est-ce que dans ce dossier, on n'est pas sur du terrorisme, sur une qualification de terrorisme, comme ça a pu être le cas dans l'affaire de Tarnac ? Est-ce que c'était un risque ? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez craint que le dossier prenne cette direction ? Voilà. Est-ce que les prévenus ont échappé de peu à cette qualification ou pas ?
Ils y ont échappé. Après, de fait, on a une procédure qui fait la taille d'une procédure terroriste.
Et est-ce que ça fait une différence, finalement ?
Dans les moyens qui ont été employés, j'ai pas l'impression, puisque justement, à l'occasion d'un procès ici de droit commun, on va dire, de militants, un système d'IMSI Catcher a été mis en place qui vise à happer toutes les données téléphoniques de l'ensemble des personnes. Donc c'est des moyens qui sont utilisés d'habitude dans des dossiers grand banditisme, des dossiers spéciaux traités par l'antiterrorisme, enfin par des services spécialisés. La peine encourue est extrêmement élevée. Là, on verra quel sera le délibéré de cette audience.
Ouais, donc bon, je vais essayer de faire au mieux, mais ça va être difficile parce que moi, je suis censée vous résumer les 5 autres avocats. Ça a duré des heures, j'ai pris plein de notes, j'ai essayé de synthétiser là pendant 2-3 minutes, mais c'est pas simple. Alors, toc. Donc le troisième avocat à avoir pris la parole, donc lui, il a surtout regretté aussi que monsieur le procureur était absent et incapable de soutenir une accusation depuis les 40 premières heures, c'est-à-dire qu'on l'a quand même à peine entendu parler. On s'attendait quand même à l'entendre un peu plus ce matin, mais néanmoins, il a quand même duré 45 minutes, ce qui était très court. Je tiens quand même à dire que là, durant les 4-5 heures de procès qu'il y a eu cet après-midi, il semblait un peu ailleurs. À un moment, il m'a même semblé dormir. Enfin, c'était assez choquant, mais bon, pas étonnant non plus. Et en fait, ce qu'il a dit, et c'est vrai, c'est que en fait, si les avocats et les avocates n'avaient pas produit des nullités, n'avaient pas invité des témoins, n'avaient pas été manifestés, il l'a dit, et ben l'audience, initialement prévue 3 jours, elle aurait duré juste une journée. Ce qui est quand même... ça pose question, quoi.
Salut, moi c'est Yann du collectif des Armolés, et en même temps je suis le frère d'un des prévenus d'aujourd'hui.
Toi, tu as assisté à toutes les audiences de ces 3 jours. Qu'est-ce que tu retiens ?
Je pense qu'il y a eu beaucoup de moments éprouvants. C'était très difficile à entendre parce qu'évidemment, il y avait tout ce truc avec les micros aussi, où visiblement, il y a une réticence à juste allumer les micros, puisqu'à un moment donné, quand les gens ont un peu insisté, ils ont quand même fini par allumer des micros. Mais voilà, il y a toute une partie des déclarations qu'on n'a pas entendues. Et cette journée d'aujourd'hui, elle était très très longue.
Et puis on est vraiment rentré dans le dossier en fait. Ça a été dit quand même beaucoup pendant les audiences par les avocats de la défense que c'est un procès dont tout le monde avait envie de se débarrasser. Le procureur n'a pipé mot pendant toutes les audiences. On aurait dit que tout le monde dans le tribunal faisait un peu de la figuration et que l'institution judiciaire avait un peu envie de se débarrasser de l'affaire, de la jeter à la poubelle même, dit l'un des avocats. Est-ce que c'est aussi ton sentiment ?
Oui, tout à fait. Moi, je pense que... Mais en fait, c'est tout le... Pour moi, en fait, ce procès, il a été organisé un petit peu parce qu'il fallait faire le procès. C'est-à-dire que tu peux pas incriminer des gens pour des faits aussi importants qu'association de malfaiteurs et déclarer forfait. Et donc, la finalité de ce truc-là, c'est qu'à un moment donné, ils ont identifié les rouages de fonctionnement et ils ont tenté de déstabiliser nos structures d'organisation, en fait. Et c'est ça le procès de Bure, c'est d'association de malfaiteurs, c'est l'utilisation d'un outil juridique pour permettre les investigations nécessaires pour le renseignement. Moi, mon interprétation de la chose, comment je vois ce procès, c'est que en amont du procès et même en amont de l'instruction quelque part, il y a une forme d'entente entre des acteurs locaux qui sont très connivants. On sait que dans la Meuse, il y a une grosse corruption. Organisée par l'ANDRA notamment et par le lobby nucléaire. Quand l'ANDRA a vu installer cette subversion à proximité du laboratoire, avec dès le début, au moment 2015, quand on a monté le camp, il y avait déjà dès le premier jour du camp quasiment une action qui s'en est prise au laboratoire, etc. Et il y avait des actions de sabotage, des actions d'occupation, des actions de lobbying et aussi de refaire en sens inverse tout le travail qu'avait fait l'ANDRA pour essayer de convaincre ou faire pression sur les habitants, en fait, sur les habitants et les communes.
C'est une manière de défaire la fabrique du consentement qui avait été mise en place, ce dont parle notamment Gaspard Dalens dans la BD d'investigation de la revue Dessinée. C'était ça l'idée de déjouer cet aspect des choses ?
Oui, après, je ne sais pas s'il y avait une démarche consciente de la part des personnes qui se sont engagées là. Nous, on avait envie de reprendre le flambeau en 2015. J'ai participé aussi au camp de Bure en 2015. Il y avait une volonté de redonner vie à une lutte. Parce qu'il y avait eu... c'était une lutte qui avait été un peu mise à mal. Il y avait aussi un décès qui avait été extrêmement douloureux pour les gens qui avaient porté la lutte ici. Et nous, on est arrivé avec ce truc un peu, cette désinvolture et ce radicalisme qui a donné un peu du sang neuf, qui a apporté du sang neuf, avec des jeunes qui s'installent. Et du coup, à acquérir aussi la sympathie d'un certain nombre de personnes qui étaient un petit peu, qui étaient restées un peu silencieuses, qui étaient retournées au silence, ou alors qui étaient très seules sur le combat, quoi. Et du coup, je pense que l'ANDRA a très vite compris que ça comportait une certaine forme de menace.
Il y a eu en fait des mobilisations qui ont suscité la curiosité et qui ont donné aussi envie à plein de gens de venir découvrir la lutte de Bure. Mais ça, c'était dès février 2017, en fait. Est-ce que tu penses que l'ANDRA a eu peur aussi de ça ?
Je pense, oui. Moi, je me souviens de cette époque où quand on venait à Bure, il y avait du plaisir, il y avait une forme d'humanité. On l'appelait la lutte la plus lol de l'univers. À un moment donné, je me souviens, on avait fait cette blague parce qu'en fait, à chaque fois qu'on venait, on était à la fois ultra subversif. Il y avait quelque chose de très solidaire, de très accueillant, avec les meilleurs jeux de mots de la Terre, très clairement. Et ça faisait partie d'un truc ça amenait la sympathie de manière assez naturelle et donc l'adhésion. Je pense que l'ANDRA a compris parce que la communication de l'ANDRA, elle est très grossière. Elle est un peu grosse patte, ils font des trucs, ils sont très communicants, ils font des clips, ils font des machins, ils font des visites, etc.
Ils payent des médias,
quand je dis nul, c'est-à-dire que c'est un peu bateau leur communication.
Pourquoi est-ce que l'ANDRA a eu besoin de l'institution judiciaire pour se renseigner, si je peux dire, sur les militantes et les militants, ou les opposantes et les opposants? Pourquoi est-ce qu'elle est passée par ce chemin-là?
Je pense qu'il y a eu un processus, il y a quand même quelque chose de progressif dans leur approche. Dans un premier temps, je ne sais pas si tu te souviens, mais dans un premier temps, notamment au moment des premières occupations du Bois-le-Juc, etc., ils ont tenté dans un premier temps avec leur propre sécu privée. C'était une espèce de milice qui allait taper des gens dans les bois. Et je pense que ça ne pouvait pas passer longtemps. Ils ne pouvaient pas, notamment avec leurs soucis de communication, s'appuyer que là-dessus. Je pense que les renseignements territoriaux et la DGSI sont aussi entrés en ligne de compte pour aider quelque part à comprendre, aider au moins la préfecture à comprendre ce que c'était ce mouvement. Et du coup, je pense que naturellement, quand la DGSI a mis son pied ici, d'une certaine manière, et qu'ils ont mis en place aussi cette cellule spécifique de gendarmerie, la cellule BUR, l'objectif était de suffisamment comprendre et maîtriser ce mouvement pour lui mettre des bâtons dans les roues, quoi. Je pense que la finalité de cette affaire, elle est dans le fait de, un, briser une lutte, de fournir des informations, aux renseignements sur qui compose cette lutte et que font ces gens, en fait. Et ces deux objectifs, ils ont été remplis. Et c'est ce qui me fait dire que ce procès, quand il vient en fin de course, il n'a aucun intérêt pour eux. Et ils n'ont même pas envie que les personnes... Ils n'ont pas un désir particulier que les personnes qui comparaissent soient condamnées, en fait. Ça ne les préoccupe plus, en fait.
Est-ce qu'ils ont réussi tant que ça? Parce que quand on voit le monde qu'il y a eu devant le tribunal en pleine semaine, on n'est pas en période de vacances scolaires, il y a quand même beaucoup de joie, beaucoup d'énergie positive dans ce soutien aux prévenus. Est-ce que tu dirais qu'ils ont si bien réussi que ça dans l'objectif de briser la lutte?
Je répondrais comme, tu vois, il y a au moins deux avocats dans leur plaidoirie qui ont dit ça. Je crois que c'est Alexandre, c'est Étienne Ambroselli, je crois, qui a dit que ça n'arrêtera personne, Et je pense que c'est un élément qu'ils n'arrivent pas à maîtriser sur aucune lutte, en fait. Je pense qu'il y a une volonté de briser une lutte, mais ils n'y arrivent jamais vraiment. Et là, typiquement, ça a été beaucoup relancé sur la dernière année, par notamment l'arrivée des bombes atomiques et des nouvelles initiatives qui viennent des meufs. Bah ouais. Qui disait la révolution sera féministe ou ne sera pas. Et je pense que moi j'y crois, hein, parce que je pense que et elle sera queer aussi. Et je sais pas. Je discutais hier avec quelqu'un d'ici. Ça s'est beaucoup queerisé aussi. Ouais, c'est ça. Du coup, il y a quand même une note positive. Ouais, ça se renouvelle.
Voilà.
Voilà. Ouais.
Voilà, un grand merci à Violette Voldoir pour ce reportage. Il est à retrouver avec bien d'autres sur le sujet ainsi que sur moult autres sujets sur radioparleur.net. Il va être quant à nous l'heure de nous quitter. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Ce soir, vous retrouverez Technis en rediffusion à 20h, suivi de Quank Somatique à 21h qui vous propose un nouvel invité de qualité en la présence de Kaima pour un live dub. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux pédalos. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous. Ciao, bye.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.